RFI vous donne la parole.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Dans un instant, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes des RFI. Vous vous posez des questions, vous souhaitez mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons sur l'antenne des RFI, notamment dans le dernier journal. Eh bien, vous nous appelez, le principe est simple, vous composez le 33 9 693 693 70. Si vous êtes en France, 09 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, sans oublier, évidemment, et c'est important, de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler et que vous puissiez directement poser vos questions sur l'antenne. On a envie de vous entendre et RFI est là tous les matins à cette heure-ci pour vous donner la parole. Et nous parlerons tout à l'heure d'une question qui suscite déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels au standard et de réactions sur la page Facebook de l'émission. On va revenir sur la promesse du gouvernement de transition au Burkina Faso de faire la lumière sur plusieurs affaires qui ont entaché l'ERCOM Poré. Le Premier ministre Isaac Zida s'est engagé à ouvrir des enquêtes, notamment sur le dossier Thomas Sankara, assassiné, rappelons-le, en 1987, lors d'un coup d'État qui avait permis justement à Blaise Compaoré de prendre la tête du pays. Autre dossier sensible également, celui du journaliste Norbert Zongo, assassiné en 1998, alors qu'il enquêtait sur la mort d'un chauffeur du frère du président Compaoré. Alors, que vous inspire l'initiative du gouvernement de transition? D'ailleurs, justement, est-ce que cette période de transition est la plus appropriée, finalement, pour lancer toutes ces enquêtes? Voilà des questions que nous vous poserons et nous lancerons le débat évidemment au 33 9 693 693 70. Des questions donc au standard. On va revenir sur la mort de Michael Brown à Ferguson aux États-Unis. C'est ce jeune afro-américain de 18 ans abattu en août dernier en pleine rue par un policier blanc. Bonjour Patrice.
Bonjour Anne, bonjour RFI.
Vous êtes à Ouagadougou au Burkina, on vous écoute.
Oui, nous avons appris qu'il y a quelques jours l'abandon de poursuites contre le policier blanc qui a abattu un adolescent noir à Ferguson aux États-Unis. Mmh. À ce propos, j'ai deux questions. D'abord, quelles sont les raisons qui ont conduit à l'abandon de poursuites contre le policier blanc?
Alors, on va déjà répondre à cette première question avec Harim Lipold du Service International. Bonjour Harim.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Alors effectivement, les jurés de Ferguson ont décidé de ne pas poursuivre l'officier Darren Wilson. On rappelle quand même que les jurés n'avaient pas à juger de la culpabilité du policier, mais à déterminer s'il y avait matière ou non à entamer des poursuites.
Voilà, hein. Exactement. C'était la première étape en fait du processus judiciaire. Ils avaient plusieurs témoins, une soixantaine à entendre, des médecins légistes et puis bien sûr les officiers de la police. Ils avaient aussi droit à tous les dossiers de l'enquête. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois depuis le mois d'août et ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas matière à inculper effectivement le policier Darren Wilson. Pourquoi? Eh bien, selon eux, rien ne prouve qu'il s'agisse d'un homicide, même d'un homicide involontaire.
Parmi les chefs d'inculpation, il y avait assassinat, homicide volontaire ou homicide involontaire. Et finalement, les jurés n'ont retenu aucun de ces chefs d'inculpation.
Oui, mais finalement, ce qui était assez particulier dans ce cas, puisque vous parlez de chefs d'inculpation, Juan, c'est que le procureur, contrairement à l'usage, n'a pas donné des chefs d'inculpation. Normalement, le procureur dit, je vous demande de décider si on poursuit une telle personne pour telle ou telle charge. Là, il n'a pas donné les charges. Il a laissé effectivement libre au grand jury de décider sinon et sous quelle charge s'il voulait inculper le policier. Donc, pas d'homicide, même pas involontaire. Mmh. C'est-à-dire, en gros, le grand jury a suivi la thèse défendue par le policier qui a plaidé la légitime défense. Alors que même, rappelons-le, Michael Brown, le jeune Afro-Américain tué n'était pas armé.
Effectivement, c'est important de le rappeler. Donc le grand jury a été convaincu par le témoignage du policier. Patrice, vous avez une autre question?
Oui, j'ai une autre question, à savoir qu'est-ce que le grand jury et quelle est sa composition?
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de grand jury et pour cause, c'était à lui de trancher. Le grand jury, ce sont 12 personnes?
Oui, ce sont 12 personnes. En tout cas, dans le cas de Ferguson, ce sont 12 personnes. Dans d'autres États, on peut aller jusqu'à 22, 23 personnes. C'est une institution très, très anglo-saxonne, en fait. Ça remonte au 12e siècle. Ça a été créé en Angleterre. À l'époque, vous savez, c'est intéressant, en fait, de suivre l'évolution de cette institution judiciaire. À l'époque, c'était, vous savez, la justice était aux mains de l'Église. C'était pour arracher la justice des mains de l'Église, pour donner un pouvoir à la population, pour associer la population aux décisions de la justice. Et ce grand jury a été ensuite installé dans d'autres pays anglo-saxons, dans tous les pays du Commonwealth. Il y a aujourd'hui que les États-Unis, en fait, qui ont gardé cette institution. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est composé, donc, dans le cas de Ferguson, de 12 personnes, en l'occurrence 9 blancs et 3 noirs. On a beaucoup critiquer cette composition, mais finalement elle reflète la composition de la population du comté de Saint-Louis, qui effectivement
Comté de Saint-Louis, mais pas de Ferguson.
C'est
là où il y a eu polémique, puisque
c'est là où il y a polémique. Mais rappelons que le jury n'était pas composé pour juger l'affaire de Ferguson. Elle était composée avant pour juger d'autres affaires qui concernent le comté de Saint-Louis.
Et ces 12 personnes sont sélectionnées par un juge.
Les 12 personnes sont sélectionnées selon des listes électorales, c'est-à-dire on vous contacte, si vous êtes un habitant de Ferguson, Juan, vous avez peut-être des chances un jour d'être contacté, et ensuite pour dire voilà, est-ce que vous avez envie de faire partie d'un grand jury, vous dites oui ou non, et puis à ce moment-là, pendant un an, pendant deux ans, eh bien vous faites partie de ce jury, et avec des contraintes, par exemple de ne pas publier, de ne pas parler publiquement de votre témoignage et bien sûr de votre décision.
On repasse
tout
au standard.
Tout se passe en huis clos.
D'autres questions, Harim Lipold, avec nous du service international d'RFI. Serge Adrien, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes dans le Loiret, en France. Vous nous appelez de Villemondeur, pour être précis. On vous écoute.
Deux questions. Première question. Le policier était-il seul en service au moment des faits?
Alors, réponse d'Arim Lipold.
Oui, clairement, il était seul en patrouille quand il a vu Michael Brown accompagné d'un autre jeune, et il l'a suspecté d'être le voleur des cigarillos. C'était un vol qu'on lui avait signalé
par radio
avant. Ensuite, il a interpellé, il a garé sa voiture et se sont suivis alors les faits, a commencé par une première altercation, il a tiré deux premiers tirs depuis sa voiture. Michael Brown s'est enfuyé. Ensuite, il y a débat. Est-ce qu'il se retournait vers le policier? Est-ce qu'il voulait agresser le policier? C'était la thèse défendue par le policier. D'autres avaient vu qu'il avait les mains en l'air, non pour agresser le policier, mais pour se rendre.
Ouais.
C'était le grand débat dont le jury, justement, était censé de...
En tout cas, Michael Brown, le policier, il était seul. Ensuite, il dit que le jeune Michael Brown aurait foncé sur le policier, l'aurait frappé au moins deux fois.
Il aurait déjà frappé quand il était encore dans la voiture, frappé au visage. Il présentait effectivement des photos, on voit quelques marques au visage. Et il avait peur, c'était aussi c'est pour ça qu'il avait pas il pensait d'abord qu'il était armé. Et à un moment donné, il disait que le jeune voulait attraper son arme, et c'est pour ça qu'il a commencé à tirer pour la première fois. Il a touché sa main.
En tout cas, l'autopsie n'a pas permis de déterminer si Michael Brown avait ou non les mains en l'air au moment du tir fatal. Vous aviez une dernière question, Serge Adrien?
Oui, c'était pour savoir pourquoi il va plus maîtriser le jeune homme sans avoir eu recours à son arme.
Bah en fait, il a dit qu'il avait peur, qu'il se sentait comme un, c'est assez étonnant cette phrase, comme un enfant de 5 ans s'accrochant à Hulk.
Oui.
Alors qu'il avait quand même, rappelons, il avait 25 ans, il mesurait 1m95, 95 kilos, mais apparemment Michael Brown, qui avait la même taille, pesait 130 kilos, donc c'était, il se sentait agressé, par lui, pensant qu'il était armé. Il a pas hésité à tirer. Il a tiré 12 fois.
12 fois, effectivement. Shérif nous rejoint. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Abidjan. On vous écoute.
Oui, j'ai une question à ce propos. Qu'est-ce qui peut faire les autorités américaines pour ramener la confiance entre la police et une certaine minorité?
Oula, on vous entend mal, shérif. Que peuvent faire les autorités américaines, et notamment Barack Obama, pour essayer effectivement de rétablir cette confiance qui a disparu entre la police et les minorités, notamment les minorités afro-américaines? Barack Obama a déjà annoncé une première chose.
Oui, effectivement, il a annoncé hier recevant les jeunes leaders des communautés afro-américaines de demander au Congrès des fonds pour équiper les policiers des petites camaras embarqués. Voilà, effectivement. Et puis aussi des fonds pour améliorer la formation des policiers. Et il a aussi décidé de mettre en place un groupe de travail qui doit réfléchir justement sur cette question que Shérif nous pose, à savoir comment peut-on améliorer les liens entre la police et les communautés afro-américaines. C'est une demande constante, effectivement, des organisations qui défendent les droits des afro-américains. Et puis Barack Obama, hier en tout cas, il se sentait vraiment engagé. Il a dit, voilà, cette fois-ci, on doit vraiment arriver à un résultat. Il suffit, voilà, on a beaucoup parlé pendant...
S'il aura le feu vert du Congrès, mais on a bien vu à travers les nombreuses manifestations à travers les États-Unis que, aujourd'hui, la société civile réclame une réforme de fond.
Il y a une véritable pression
du
de la société civile, de la effectivement. Ouais.
Merci Arim d'être venu répondre à quelques-unes des questions que nous avons reçues concernant ce dossier. Bonne journée. À bientôt Arim.
Merci. Bonne journée à vous.
9h22 à Paris. D'autres questions au standard au 33 9 693 693 70. Christine Muratet du service Afrique nous rejoint. Bonjour Christine.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Nous avons des questions concernant le dossier de l'affaire du trafic présumé de bébés. Ibrahim, bonjour.
Bonjour Juan.
On vous écoute, vous avez des questions.
Oui, j'avais deux questions concernant le trafic des bébés au Niger.
Oui.
Donc ma première question est de savoir pourquoi ces personnes ont été mises en liberté provisoire.
Pourquoi 16 personnes ont été mises en liberté provisoire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième?
La deuxième question, pourquoi la femme de Amadou est toujours gardée à la prison civile de Kolo?
Ah, alors effectivement, là, c'est intéressant, Christine Muratet. C'est vrai que la majorité des prévenus impliqués dans cette affaire ont bénéficié d'une liberté provisoire, ce qui n'a pas été le cas et ce qui n'est pas le cas de l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou. Comment expliquer déjà que la chambre d'accusation ait libéré ces 16 personnes?
Mais alors, la chambre d'accusation de la Cour d'appel a estimé dans son arrêt de lundi dernier que les 16 personnes remises en liberté provisoire avaient suffisamment de garanties de représentation judiciaire. En d'autres termes, que la justice ne prenait aucun risque en les laissant libres d'ici le prochain procès. C'est pourquoi donc la Chambre a accepté de répondre favorablement à la demande des avocats de la plupart des accusés. Parmi les personnes remises en liberté, il y a quand même des personnalités. Il y a le ministre d'État de l'Agriculture, Abdou Labo, et son épouse, plusieurs personnalités du monde économique nigérien, dont le président du conseil d'administration de la Sonem Bank et ses épouses. Et on sait que certains n'ont pas obtenu la même réponse, donc on parlera de l'épouse de Amadou un peu plus tard. Mais ceux qui n'ont pas été remis en liberté provisoire sont les derniers inculpés placés en détention ces toutes dernières semaines, notamment une personnalité, là, cette fois-ci militaire, le haut commandant de la garde républicaine et son épouse, ainsi qu'un inculpé qualifié de cerveau du présumé trafic. Et d'ailleurs, cette information, elle date de ce matin, leur requête de mise en liberté a été rejetée, elle vient d'être rejetée, et ils devraient faire appel, eux aussi, de cette décision.
Mais cette liberté provisoire ne veut pas dire relax ou liberté définitive. Hein.
En effet, Marou Amadou, le garde des Sceaux, l'a clairement expliqué la semaine passée. Et le garde des Sceaux a indiqué que le parquet s'était opposé à cette mise en liberté provisoire. D'ailleurs, pour le ministère public, cette affaire de supposition d'enfants et de trafic de bébés reste gravissime, c'est les termes du garde des Sceaux, et ne justifiait pas une remise en liberté provisoire. Un procès, d'ailleurs, aura lieu, et peut-être même assez rapidement, puisque d'après plusieurs sources proches du dossier, le juge en charge de l'affaire a quasiment bouclé l'instruction. Les interrogatoires au fond ont été bouclés, et les commissions rogatoires envoyées au Nigeria, au Burkina et au Bénin dans ce dossier de trafic présumé de bébés sont rentrées au Niger. Bref, tout est prêt, semble-t-il, pour un procès dans des délais assez brefs. Il faut savoir que dans une pareille affaire, Juan, les personnes inculpées sont passibles de peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans de réclusion criminelle.
Alors, on en revient à la deuxième question de notre auditeur. Pour quelle raison la femme d'Ama Amadou reste incarcérée?
Alors, l'avocat de Hadidza Amadou a lui aussi fait une demande de remise en liberté provisoire, mais séparée des autres inculpés. Il l'a introduite avant tout le monde. Et par ailleurs, contrairement aux autres, il a couplé cette demande avec une demande d'incompétence de juridiction. C'est-à-dire que les défenseurs de l'épouse de Ama estiment que le juge nigérien n'est pas compétent pour juger de cette affaire dans la mesure où la plainte, pour être recevable, aurait dû venir du Nigeria, de la part des parents des enfants achetés par les familles nigériennes. Un argument qui est contesté par la justice nigérienne, qui rappelle que quiconque peut contester une infraction. Bref, le 11 novembre dernier, la chambre d'accusation de la cour d'appel a débouté Madame Ama. Elle n'était donc pas concernée par la décision de la chambre lundi dernier. Son avocat, Maître Souley Oumarou, nous a confirmé qu'il avait introduit deux recours pour obtenir coûte que coûte la remise en liberté provisoire de sa cliente et il attend une décision de la chambre d'accusation d'ici quelques jours. Alors, Juan, on le sait, pour Maître Souley, tout cela relève de l'acharnement politique contre Ama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, lui aussi impliqué dans cette affaire puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour complicité de supposition d'enfant, faux et usage de faux. Le garde des Sceaux, lui, il a fermement démenti cette accusation. La loi est égale pour tous et est faite pour être appliquée. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux a rappelé que beaucoup de personnalités restent encore en prison dans cette affaire. Il en reste 9.
On aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs vendredi dans la Libre Antenne. Merci beaucoup de cet éclairage, Christine Murat et Ibrahim. Bonne journée. Vous nous appeliez de Vavois. Vavois, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, à 400 km d'Abidjan, pour être précis. Il nous reste 3 minutes avant le journal, avant d'accueillir la rédaction pour les dernières informations sur le continent africain. Je vous informe que la semaine prochaine, événement, journée spéciale sur RFI, vous le savez probablement, peut-être pas, en tout cas vous allez l'apprendre tout de suite. Mardi prochain, le 9 décembre, journée spéciale Abderrahmane Sissako sur notre antenne. Vous allez le retrouver tout au long de la journée, notamment chez Emmanuel Bastide dans 7 milliards de voisins. Il sera aux côtés de Laurent Sadou, Afrique Midi, la danse des mots avec Yvon Amar. Il parlera aussi football avec Annie Gasnier dans son dernier film Timbuktu. Il y a une scène incroyable, une scène vraiment mémorable puisqu'on voit les acteurs jouer au football mais sans ballon. Il s'expliquera, il reviendra raconter évidemment cette scène et il sera à mes côtés pendant une heure. Abderrahmane Sissako sera le rédacteur en chef exceptionnel de l'émission et c'est lui qui choisira les sujets sur lesquels nous débattrons ensemble. Je vous en dirai plus dans quelques jours, une fois qu'Abderrahmane Sissako aura déterminé les sujets, et je vous les donnerai évidemment dès que j'en aurai connaissance. Dans 10 minutes, notre débat du jour, nous parlerons tout à l'heure du Burkina Faso avec cette annonce pour le moins surprenante des nouvelles autorités. Le Premier ministre a dit que tous les dossiers en suspens seront ouverts. Il a notamment cité celui de Thomas Sankara et celui de Norbert Zongo. Un avant-goût du débat. Mouamadou, bonjour.
Bonjour Juan, comment allez-vous?
Très bien, merci d'être avec nous. Vous êtes à Ouagadougou et vous saluez la décision du gouvernement.
Je salue la décision du gouvernement parce que depuis les assassinats de Norbert Zongo et du président Thomas Sankara, la justice vraiment a beaucoup tergiversé sur ce dossier. Je ne sais pas si c'est par autocensure ou bien si c'est par pression exercée sur elle. Toujours est-il que toutes les actions qui ont été entreprises, tant au niveau national qu'au niveau international, n'ont pas pu faire fléchir ni le gouvernement de Blaise Compaoré, ni la justice burkinabé à travers les personnes qui avaient en charge ce dossier-là.
Mais c'est là que je salue. Vous saluez l'initiative d'un gouvernement de transition. Vous pensez que c'est une bonne période, ce moment de transition pour relancer des affaires?
Et oui, il faut donner le temps. Il faut donner le temps, même si les dossiers n'iront pas jusqu'à leur terme au cours de cette transition. Mais il faut donner le temps à ce que le gouvernement qui va suivre en novembre 2015 puisse prendre le relais.
Vous êtes nombreux à dire sur la page Facebook de l'émission que ce n'est pas la priorité du gouvernement de transition. On vous donne la parole dans 10 minutes, on prolongera le débat évidemment. 33 9 693 693 70.